Radio Estable.
Morning Edition from NPR News.
Lo que se reproduce y entra en la radio.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir nous emmène dans les camps Rohingyas du Bangladesh. Nous y sommes retournés sur France Inter, prendre des nouvelles de cette catastrophe humanitaire qu'on a peut-être un peu perdue de vue. Vous entendrez parler notamment de ces injections dont témoignent des femmes Rohingyas grâce à Philippe Randet, sous les radars avec Florence Paracuelos, notamment ce gilet donc que portent les enfants hyperactifs en Allemagne. 18h50, le film en VO de la semaine, Corinne Pellissier a vu The Post, les Pentagon Papers en français de Spielberg, un film important quand la liberté de la presse c'est menacé. C'est Spielberg qui le dit et vous l'entendrez. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers et nous incite à regarder du côté de Davos, 7 femmes pour présider les 7 ateliers de cette réunion économique formidable. Très beau miroir aux alouettes aussi. Mais tout de suite, nous allons vers cette région du Maroc dont la signature est la contestation depuis longtemps, depuis toujours. Le RIF a montré sa colère, c'était il y a plus d'un an. Et depuis, eh bien, depuis justement, allons-y, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Allez, je vous emmène dans la rue marocaine, la ville symbole où nous allons. Elle s'appelle Al-Hoceima. C'est là qu'en octobre 2016 ont commencé les premières contestations. Vous l'avez sûrement en tête, ça s'est passé après la mort d'un marchand de poissons. Il s'appelait Moussine Firki. Il est mort dans une benne à ordures parce qu'il essayait de récupérer son poisson que les autorités étaient en train de lui jeter. Depuis, répression, emprisonnement et pas de dénouement en vue dans ce RIF marocain. Bonsoir Pierre Vermeeren.
Soir.
Vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris 1, vous êtes spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-berbères. Je précise que vous êtes en duplex depuis Bordeaux. On salue et on remercie au passage nos amis de France Bleu. Avec nous aussi Vanessa Descoureaux. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir.
Vous avez passé, vous, un peu de temps dans ce RIF puisque vous y êtes allé en reportage. C'était en décembre dernier. Vous le diffusez dans Interception ce dimanche et on y reviendra bien sûr. On reviendra surtout sur les conditions dans lesquelles vous avez pu ramener et travailler. Pierre Vermeeren, sur un blog marocain En préparant cette émission, je lis « Le régime marocain a perdu la guerre du RIF en 2017 ». Est-ce que vous diriez effectivement la même chose? Cette guerre du RIF a été perdue par le régime marocain? La rupture, on va dire, est consommée définitivement?
Bon, bien sûr, c'est une formule. Rappelons que la guerre du RIF a eu lieu dans les années 20.
Aussi.
Qu'il y a eu un rebondissement dans les années 60. Non, mais quand on dit la guerre du RIF au Maroc, forcément,
j'entends,
tout le monde
entend. J'entends, il y a eu une vraie guerre du RIF. J'entends ce que vous dites.
Ouais. Voilà. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on est loin d'une guerre, mais il y a quand même une situation de tension ancienne qui perdure. Et croire que cette région allait se normaliser en quelque sorte, qu'après des décennies d'abandon sous le règne de Hassan II, elle allait en quelque sorte être exclusivement préoccupée par des préoccupations matérielles et rentrer dans le rang, ben, c'est ça, je pense, que vise cette expression. C'est-à-dire que on voit depuis 2 ans qu'il n'en est rien et que la situation reste explosive, même si, évidemment, provisoirement et peut-être durablement même, les principaux acteurs ont été mis à l'écart ou sont partis, ou en tout cas sont menacés par des peines très dures.
Alors justement, Pierre Vermeeren, c'est un peu compliqué, est-ce qu'on peut faire une sorte de bilan, savoir combien de personnes sont emprisonnées aujourd'hui, combien attendent aussi leur procès, parce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée ou pas?
D'après l'Association marocaine des droits de l'homme, il y aurait à peu près 800 personnes poursuivies depuis le début des événements. Ça a commencé véritablement en avril 2017. Et il y aurait, d'après le dernier bilan comptable, 400, c'était en septembre 2017, 408 prisonniers. Le chiffre, évidemment, a changé parce que d'abord, il y a eu de nouveaux emprisonnements, probablement. Et surtout, il y a eu aussi des libérations parce que les gens ne sont pas indéfiniment en prison. Ce qui rend les choses très difficiles, c'est que les prisonniers sont répartis sur différentes villes du Maroc, sur une grande partie du territoire. Donc, voilà à peu près, en gros, la fourchette. Il faut sûrement compter aussi quelques centaines de personnes, peut-être 200, qui ont quitté le Maroc pour éviter des poursuites.
Et le leader, on va dire, de cette contestation, qui s'appelle Nasser Zefzafi, il est en prison, lui, depuis combien de temps? Et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer pour lui, en fait? Qu'est-ce qui risque de se passer pour lui?
Alors, il est en prison, effectivement, à Casablanca, dans la grande prison de Oukacha, me semble-t-il. Mm-hmm. Il est poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État, ce qui, bien sûr,
très
théoriquement, peut aller jusqu'à la peine de mort, mais elle n'a pas été appliquée au Maroc depuis très longtemps. Donc, c'est peu probable. Mais enfin, il y a déjà eu des condamnations parmi ceux qui ont été poursuivis, qui ont été jusqu'à 20 ans de prison. Donc, assurément, la peine sera lourde. Maintenant, on est dans la politique, on n'est plus dans la justice. Donc, le pouvoir, par exemple, reporte très régulièrement le verdict. Donc, encore, je crois, hier ou aujourd'hui, il a été repoussé. Donc, les choses vont peut-être... l'idée, je pense, des autorités, c'est d'essayer de traiter le problème politiquement plutôt que judiciairement. La justice, dans ce cas-là, c'est un auxiliaire du ministère de l'Intérieur qui vise à rétablir l'ordre. Maintenant, si l'ordre revient, les poursuites tomberont. Mais enfin, on n'en est pas là.
Alors justement, on y reviendra évidemment sur la politique. Pierre Vermeeren, Vanessa Descoureaux, je voudrais que vous nous parliez, on parlait des gens qui sont enfermés à l'instant, de ce que les Marocains eux-mêmes appellent la chasse aux gosses. C'est quoi la chasse aux gosses ?
Alors là encore, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais il s'avère que depuis plusieurs semaines et à peu près au même moment, depuis le printemps et l'été dernier, de plus en plus d'enfants ou de jeunes adolescents sont arrêtés et pour certains condamnés. Et pour ça, il suffit de regarder quasiment chaque semaine les comptes rendus judiciaires, et souvent dans les tribunaux du RIF. Ça, ces gosses-là ne sont pas jugés et condamnés à Casablanca comme le sont les leaders du mouvement, mais c'est des peines d'un an, deux ans pour participer à des manifestations illégales, pour avoir chanté les slogans de ce mouvement de contestation du Irak dans la cour d'école, tout simplement. Au sujet de l'école, il y a un directeur d'une école d'Al-Hoceima, donc le foyer de la contestation, de la révolte, qui a démissionné parce qu'il ne supportait pas les pressions des autorités là-bas, qui consistaient à lui demander, à exiger les listes des enfants qui lui semblaient les plus admiratifs de ce mouvement. Donc ce monsieur a démissionné. Il a quitté la région, il est maintenant à Casablanca et il s'est rapproché d'associations de défense des droits de l'homme. Mais voilà, c'est ce contexte-là assez particulier qui vise là aussi les enfants.
Et je voudrais qu'on écoute, tiens, un militant historique justement de l'association marocaine des droits de l'homme. Vous nous rappelez son nom, Vanessa ?
Abdelilah Ben Abdeslam.
Et qui parle justement de ses enfants, écoutez-le.
Ces enfants sont arrêtés et transférés dans ce qu'on appelait au Maroc les centres de correction, qui font partie de la direction pénitentiaire générale du Maroc. Alors, ce sont des quartiers dans des prisons. Ils restent jusqu'à ce que les autorités judiciaires décident ce que peut faire d'eux.
Selon vous, quel est le but du pouvoir central ? Quel est le but recherché en s'attaquant, en s'en prenant à ses propres enfants ?
C'est de faire peur, soit aux parents, soit aux majeurs. C'est un message qu'on peut même arrêter les enfants.
Ça veut dire qu'on n'a pas de limite ?
Oui, ce sont des enfants, on ne peut pas les arrêter, c'est vraiment scandaleux. Toujours notre pays essaie de se présenter à l'étranger comme un pays de droits humains, parce qu'il ratifie plusieurs conventions des droits humains, mais l'essentiel, ce n'est pas de ratifier, c'est bien de ratifier, mais de mettre en œuvre ces conventions dans la réalité marocaine.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est efficace et dissuasif ? Ça fait peur à la population, Vanessa, quand on leur dit « attention, on va mettre les enfants en prison ».
Ça fait peur comme tout le reste. Mmh. J'ai envie de vous dire, tous les leaders du premier rang, du deuxième rang, du troisième rang sont déjà arrêtés. Maintenant, on s'en prend aux petits. Effectivement, dans les rues d'Al-Hoceima et des alentours, il n'y a plus de manifestations visibles. En revanche, il y a toujours des petites actions. Ce week-end, c'était dimanche précisément, grève générale à Al-Hoceima et aux alentours, et tous les rideaux étaient fermés. Donc, le mouvement n'est pas mort, il est éteint, mais il couve.
Est-ce que, Pierre Vermeeren, je vais le dire comme ça, est-ce qu'il y a un traitement de faveur pour les RIFains avec mille guillemets, c'est-à-dire le fait d'enlever leurs enfants, d'emprisonner leurs enfants, par exemple, est-ce que on peut dire que c'est une forme de répression qui peut marcher partout au Maroc, en gros, ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier vraiment autour des révoltés du RIF?
Non, je crois pas. Je crois que la vraie différence, c'est que on est dans une région très solidaire, qui a été très isolée historiquement et qui a subi les conséquences de ce blocus que Hassan II, d'une certaine manière, avait instauré. Et du coup, en plus, on est en Méditerranée. Hein, le Maroc, faut toujours le rappeler, n'est pas un pays méditerranéen, sauf le Rif. Donc, on est dans une société très soudée, très particulière, que la police marocaine, à la limite, n'a pas vraiment l'habitude de côtoyer. Les Rifains sont redoutés dans le pays, pour tout un tas de raisons. Donc, je crois que là, la colère est telle. Et surtout, si vous voulez, c'est moins la colère que la misère sociale et l'absence totale de solutions. Pendant très longtemps, l'immigration a servi de soupape. Aujourd'hui, elle est devenue plus difficile. Donc, les gens n'ont rien à perdre. Et cette solidarité régionale et familiale, clanique aussi, et aussi berbère, puisqu'il y a la question de la langue, face à des policiers qui sont envoyés du Sud ou de Rabat, voilà, ça joue à plein.
Ça veut dire que c'est une contestation sociale, on l'a bien compris, mais c'est aussi une contestation identitaire, en fait, à l'intérieur du Rif ou pas ?
Forcément, ça déborde parce que c'est la tendance, si vous voulez, dans la mesure où socialement, économiquement, politiquement, il n'y a pas vraiment de réponse possible. Il y a une sorte de pourrissement qui s'est fait et il y a un certain nombre de militants ou de personnes diverses ou de mouvements aussi qui essayent de jouer là-dessus. Mais je crois que c'est pas l'essentiel, mais on ne peut pas l'occulter, faire comme si on était dans une région lambda échappant à ce particularisme rifain et berbère.
Alors justement, Vanessa, effectivement, un particularisme, mais surtout pour ce qui s'y passe aujourd'hui. Je voudrais que vous nous racontiez comment ça se passe quand on essaye d'aller, pas dans le Rif, parce que dans le Rif on y va, mais typiquement à Al Hoceïma, la fameuse ville première, on va dire.
Eh ben, c'est pas compliqué. Plus on s'approche d'Al Hoceïma, plus il y a des barrages de gendarmerie sur la route. Et puis à 5 km d'Al Hoceïma, moi je suis dans un taxi collectif, donc je suis avec 4 autres personnes, on discute, tout se passe bien. Et à 5 km de la ville, le gendarme... J'ai été signalée sur la route, je ne suis pas naïve, je sais très bien ce que je fais là, ce que je fais dans ce taxi. Et me demande de quitter ce taxi et faire demi-tour et de revenir dans l'autre grande ville un peu plus sur la route, la ville de Nador. Donc je n'ai pas pu aller à Al Hoceïma sur un prétexte complètement fallacieux et inventé, parce que j'étais en règle, j'aurais pu y aller, rien ne m'y interdisait, sauf l'aléatoire, ce qui est le propre des régimes...
Qui peut rentrer à Al Hoceïma ? Est-ce que ça veut dire que...
Les habitants de la ville.
Voilà, alors un journaliste britannique, espagnol, français, rentre ou pas ?
Plus maintenant.
Un journaliste marocain, en revanche.
Quand il est accrédité et bien vu.
Vous racontez aussi ce qui s'est passé avec une jeune activiste que vous avez rencontrée,
Alors, à cette occasion-là. De fait, je n'ai pas pu la rencontrer dans la ville d'Al Hoceïma pour des raisons évidentes désormais. Donc, on se rencontre un peu en retrait dans une ville qu'elle nous avait pourtant précisée comme pas très surveillée, modérément surveillée, dirons-nous. Et là, on assiste à une scène assez classique, encore une fois, dans des régimes de ce type-là, c'est-à-dire autoritaire quand on évoque des questions qui dérangent. On est dans un café, on finit l'interview, 4 hommes débarquent. Quatre hommes des services de renseignement, tout simplement, l'arrêtent, l'intimident devant moi, me demandent, exigent, que dis-je, de d'effacer l'interview au risque de l'envoyer, elle, en prison. Vous pensez bien que pour des raisons évidentes, l'interview a été effacée. Et cette jeune femme, qui disait même pas des propos enflammés, qui disait juste que le régime... n'avait qu'une réponse sécuritaire, que de ce fait, il était en train de semer les graines d'une future révolte peut-être plus large que le Rif. Donc des propos maintes fois entendus, j'ai envie de dire, sur ce cas très précis du Rif. Malgré tout, voilà, cette personne dérangée.
Et vous savez ce qu'elle est devenue, d'ailleurs ?
Nous avons toujours des contacts après une sale nuit, psychologiquement, hein, pas physiquement, mais une sale nuit qu'elle a passée dans les locaux des services de renseignement.
Pierre Vermeuren, on n'est pas très étonné, de ce que raconte Vanessa Descoureaux. Ce que dit cette jeune femme qu'elle a interviewée, c'est attention, la tache d'huile est possible. Est-ce que vous pensez que cette tache d'huile, oui, est possible ? Parce qu'on a un peu l'impression, mais vous m'arrêterez si je me trompe, que ça fait plus d'un an maintenant, il ne s'est pas passé grand-chose d'autre au Maroc, finalement, après ces incidents du Rif.
Bah écoutez, d'abord, d'un point de vue général, cette situation de misère des zones rurales, des zones périphériques, on la retrouve dans la totalité du Maghreb. Vous voyez, on la retrouve, on a eu cette année des émeutes dans le sud du Maroc, à Zagora, pour des problèmes d'eau. On a eu des émeutes dans la région de l'Oriental avant les fêtes concernant la mort de jeunes dans des mines exploitées sauvagement, des mines de charbon à Gérada. On a bien sûr les incidents du Rif, donc etc. On pourrait multiplier les exemples en Tunisie récemment, en Algérie. Donc il y a cette misère rurale de masse qui n'est pas soluble, si vous voulez. C'est ça le problème, c'est qu'à politique égale, à situation internationale inchangée, il y a la permanence, il y a ces dizaines de millions d'habitants. Alors dans le cas du Maroc, ça représente peut-être 10 à 15 millions d'habitants qui vivent à la périphérie du monde en développement.
Mais effectivement,
et
vous avez,
voilà,
vous avez...
donc ça ne se résout pas par des décrets ni par des changements de responsables.
Et effectivement, vous avez cité l'Algérie, on pense aussi à la Tunisie qui a eu aussi, après sa propre révolution, des mouvements importants. Est-ce que vous diriez que dans une espèce de deuxième phase de révolution arabe, en fait, une espèce de saison 2, pardon de le dire comme ça, le Maroc pourrait s'emparer de ça et bouger comme ont bougé les voisins tunisiens ou pas?
On ne peut pas faire de prédiction parce qu'au Maroc, il y a déjà eu le mouvement du 20 février en 2011. Dans les grandes villes, là, ce qui frappe, c'est que ce sont les régions rurales, périphériques, pauvres, dans laquelle l'économie est complètement sous-développée. Il n'y a pas de projet de développement. Ça ne pourrait se faire que d'une manière, par une concertation internationale avec soit l'Europe, soit les pays arabes du Moyen-Orient. Mais encore que l'Europe, pour l'instant, elle fait... Il n'y a pas de plan, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de solution. L'idée, c'est sur laquelle vivent ces régimes, c'est que la répression viendra à bout. Mmh. Mais elle viendra à bout de quoi? Pour l'instant, l'émigration avait servi à un peu de cataplasme sur une jambe de bois. C'est-à-dire que les gens partant, hein, vous avez une très très grande partie de la population rifaine qui vit en Europe. Donc, et la région, elle vit grâce aux revenus de ces travailleurs immigrés aux différents trafics. Mais maintenant que vu la situation économique en Europe, l'émigration étant bloquée, vous avez cette jeunesse dont on parle. C'est pour ça qu'on fait peur aux jeunes. C'est parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont là, qui attendent. Le système public, scolaire et autres sont très déficients. Et du coup, parquer une population, alors qu'elle sait très bien qu'avec les moyens technologiques actuels, on peut très bien savoir ce qui se passe partout et que l'expérience des printemps arabes a montré la circulation de l'information, on ne peut plus faire de la politique comme dans les années 80, mais la situation n'a pas fondamentalement changé dans ces régions périphériques.
En tout cas, et vous le disiez, on n'entend pas tellement l'Europe là-dessus, on n'entend pas du tout, on n'entend pas la France non plus, y compris dire au moins des choses, même à mot couvert, roi du Maroc, non ?
Bien sûr, parce que si vous voulez, on est très très lié au régime du Maghreb, en redoutant un soulèvement, en redoutant du terrorisme, en redoutant l'exportation de divers problèmes, donc tout le monde serre les coudes, mais tant que ce problème subsiste de manière sous-jacente et maintenant de manière visible, eh bien on reste sur une poudrière en Méditerranée occidentale.
Merci beaucoup, merci Pierre Vermeeren de votre passage dans Un jour dans le monde, merci à vous Vanessa Decour aussi. Interception sur le Rif, c'est ce dimanche, 9h10 sur France Inter. On se quitte avec, on va entendre sa voix magnifique. En tout cas, cette musique qui est derrière nous, dites-nous qui c'est.
La voix qu'on va entendre, celle de Cilia Ziani, une très jeune femme de 23 ans, l'une des figures féminines de ce mouvement.
Merci beaucoup et à dimanche, Vanessa. Ça fait mal de la couper, mais quand il faut le faire, il faut le faire. La suite d'Un jour dans le monde à Kinshasa, en Allemagne, en Russie avec Florence Paracuelos, au Bangladesh avec Philippe Randet, avec les Rohingyas, Corinne Pellissier. Vous avez vu les Pentagon Papers de Spielberg et c'était bien?
Ah, c'était bien, une ambiance de bureau enfumé, un scandale politique, un lanceur d'alerte et une patronne de presse qui fait la chasse aux fake news.
Et puis Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers. Comme tous les soirs, vous avez compté les femmes à Davos, Jean-Marc?
Absolument, elles prennent le pouvoir, il paraît. Vous croyez pas que ça serait plutôt un attrape-nicou?
Ah, on verra ça. Allez, à tout de suite, on n'a pas fini le tour du monde. Vampire Weekend sur France Inter, Unbelievers. est en train de se disputer autour de cette table pour savoir si Vampire Weekend c'est vieux ou c'est jeune. Florence Paracolos, vous dites ?
Non, je ne dis rien.
Eh ben, ne dites rien alors, c'est mieux comme ça.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьём.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence Paracolos, exclusivement sous les radars, avec l'actualité cachée dans les recoins de la planète. On commence à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en ébullition contre le maintien de Joseph Kabila.
Joseph Kabila qui a succédé, vous le savez, à son père en 2001 et qui refuse, 17 ans plus tard, de lâcher la présidence de la RDC. Il aurait dû partir le 20 décembre 2016, puis organiser des élections fin 2017. Il est toujours là. Et qui a pris la tête de la contestation en RDC ? Pas l'opposition politique. Non, là-bas, c'est l'Église qui est à l'avant-garde. Des marches de protestation sont organisées à la sortie des messes du dimanche. Celle du 31 décembre a fait 6 morts. Celle de dimanche dernier a aussi été réprimé dans le sang. Jean Robert en était. Il l'a raconté ce matin au téléphone de Juan Gomez sur RFI.
J'ai d'abord assisté à la messe comme tout bon catholique parce que j'avais envie de participer à la marche, parce que j'ai la ferme conviction que Kabila et ses valets de la majorité présidentielle n'ont pas l'intention de quitter le pouvoir. À la fin de la messe, on est sorti de l'église. De voir la présence des policiers et militaires plus qu'armés, on se dit on était dans un champ de bataille, quoi. C'était vraiment atroce.
6 morts de nouveau ce dimanche, selon les Nations Unies, et peut-être plus. L'archevêque de Kinshasa, un proche du pape François, a de nouveau pris la parole hier devant la presse. Il est temps que les médiocres dégagent. Ça, c'est ce qu'il avait déclaré Laurent Monsengo il y a 15 jours. Cette fois, il est accablé par la violence du pouvoir.
Sommes-nous dans une prison à ciel ouvert ? Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, des enfants ? Des jeunes et vieux, scandant cantiques religieux, munis des bibles, chapelets, crucifix.
Voilà, et si c'est l'Église qui tient tête à Joseph Kabila, c'est que l'Église est partie prenante de la transition qui aura dû se faire l'an dernier. C'est sous son égide qu'un accord politique avait été signé en 2016, l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait des élections un an plus tard. Elles ont encore été repoussées à décembre 2018. Cette fois, l'organisation catholique qui organise les marches du dimanche demande simplement à Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat.
Tiens Florent, je vous le glisse au passage, on y est en reportage pour France Inter en RDC, on l'écoutera dans Un jour dans le monde, ce sera en début de semaine prochaine grâce à Mathilde Dehémy. On passe en Allemagne où les écoles font porter un gilet spécial aux enfants hyperactifs.
C'est la polémique du moment en Allemagne. Que penser de ces gilets de sable utilisés dans 200 écoles ? Ils sont lestés de 1 à 6 kilos de sable destinés donc aux enfants qui ont des troubles du comportement. On ne les oblige pas à les porter, ces gilets, c'est un choix. D'ailleurs, tous les enfants peuvent les essayer. Et d'après les professeurs qui les utilisent, ça calmerait les élèves hyperactifs, ce qui est le but affiché de la société Beluga qui les produit. Alors ça, c'est son patron, patron de cette société, qui explique que les gens qui sont atteints de troubles hyperactifs ont du mal avec la perception de leur corps dans l'espace et que grâce à cette thérapie du sable, ils ont enfin la sensation de la finitude de leur corps. Il y a aussi des parents qui expliquent que ça fait du bien à leur enfant, des profs qui trouvent que ça les aide à se concentrer, qu'ils ne les portent pas, ils précisent ces gilets toute la journée, mais pas plus d'une demi-heure d'affilée, et que c'est une alternative aux médicaments. Le problème, c'est qu'aucune étude scientifique n'a été menée sur ces gilets. Du coup, le débat fait rage. Certains dénoncent une camisole pour enfants. Pour d'autres, c'est l'aspect stigmatisant qui pose problème. Ça n'est pas une solution magique, reconnaît le patron de la société qui les fabrique. Ça n'ira pas à tous les enfants. Mais pourquoi en priver ceux qui le plébiscitent, comme Frédéric, 9 ans. Le gilet m'aide à me calmer, a-t-il dit au hamburger Randenblatt, excusez-moi pour l'accent allemand. Quand je le porte, mon écriture est plus fluide, voilà ce que dit ce garçon, ce qui mérite effectivement probablement d'être étudié un peu plus,
scientifiquement,
une étude thérapeutique, sauf que c'est pas évident, on le sait, de financer ce genre d'études quand c'est pas pour des médicaments à vendre à la clé.
Voilà. Allez, la thérapie du sac de sable en Allemagne donc. Les Russes ne verront pas la mort de Staline, enfin le film La mort de Staline.
Et oui, il devait sortir demain, signé par le Britannique Armando Iannucci. C'est une comédie totalement loufoque. Elle a été présentée au Festival de Toronto. Elle raconte la guerre de succession qui a suivi la mort de Joseph Staline. On y voit Molotov, Khrouchtchev, Beria ou le maréchal Joukov. C'est inspiré d'une BD française et ça n'a pas du tout mais alors pas du tout plu aux officiels russes. Sortie interdite, le film s'en prend aux symboles nationaux, déclare le ministre de la Culture. C'est une raillerie insultante. Ces films-là ne doivent pas arriver en Russie, dit Nikita Mikhalkov, cinéaste proche du pouvoir pourtant, auteur du merveilleux soleil trompeur sur les purges staliniennes. Si au moins, Fabienne, il avait pu sortir après la prochaine présidentielle du 18 mars, eh ben non, les distributeurs ont refusé tout net. Chez nous, on pourra le voir à partir du 20 mars, donc deux jours après la probable réélection de Vladimir Poutine.
Stalin's dead.
He's dead.
Stalin is dead!
Oh my God.
Our general secretary is lying in a puddle of indignity.
Yeah, he's feeling unwell, clearly.
I want to make a speech at my father's funeral.
No problem.
Technically, yes, but practically.
When I said no problem, what I meant
alors
was...
la critique internationale no. est unanime. Et ça a effectivement l'air très drôle.
Il dit voilà. que c'est formidable.
Ouais. La bande-annonce donne effectivement très envie.
Et ben, on chroniquera ça dans Un jour dans le monde à la sortie. Donc le 20 mars, c'est bien noté. Florence Paracolos, merci.
France Inter.
Doha. Harare.
Jérusalem.
Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul.
Washington.
São Paulo.
Beyrouth.
France Inter.
Et ce soir, dans le reportage Un jour dans le monde, je vous emmène dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Je vous y ramène. Nous avons déjà rencontré ces gens. Mais sur France Inter, nous avons décidé qu'il ne fallait pas lâcher cette histoire au milieu du guet puisque personne n'en parle plus trop. Bonsoir Philippe Randet.
Bonsoir.
Depuis ce matin, c'est vous qui racontez votre reportage au milieu de ces réfugiés. Vous y avez passé du temps. Il faut savoir que les retours des Rohingyas vers leur terre en Birmanie devaient commencer aujourd'hui. Les Birmans avaient assuré que ça se passerait bien. Comment voulez-vous que les Rohingyas aient confiance après ce qu'ils ont subi? Et c'est bien ce que vous allez nous raconter ce soir, Philippe, des témoignages d'injection de force par des militaires sur les femmes Rohingyas.
Oui, c'est un murmure qui parcourt les collines et s'engouffre dans les cabanes entre les bambous et les bâches plastiques. Une confidence honteuse, une piqûre, un liquide injecté de force par les militaires et des jeunes femmes qui pendant plusieurs mois n'ont plus leurs règles. Dans son abri de fortune, Anouara cuisine au feu de bois. L'air est à peine respirable, mais Anouara ne sent plus rien. Il y a quelques mois, dans son village de Birmanie, elle a été violée une première fois. Puis, quelques jours plus tard...
On ne voulait pas y aller. Ils nous ont attrapés. Et les militaires criaient. Vous devez recevoir ces injections. On était 9 ou 10 femmes dans un véhicule. Ils nous ont obligés à nous coucher et ils nous frappaient si on criait. Puis on est arrivés dans une pièce à l'hôpital et ils nous ont fait une injection dans le bras. Après, dans une pièce, ils m'ont déshabillée. Ils m'ont violée. C'était des militaires. Après cette injection, j'ai senti des maux de tête, des vomissements, des douleurs dans mon corps. Mon corps me faisait très mal. Je ne voyais plus rien.
À quelques mètres de là, un puits fait office de place du village. On y discute, on y rince son linge et surtout on y lave les enfants. Shanija observe un bébé avec du savon dans les cheveux. Shanija a 25 ans, elle n'a plus d'enfants, son seul fils a été tué par balle et elle aussi dit avoir reçu une injection.
Quand ils m'ont injecté le produit, j'ai eu mal, j'ai crié, je suis tombée par terre. Mon bras était enflé à cause de la piqûre.
Qu'est-ce qu'ils vous ont injecté ?
Je ne sais pas. Au lieu de nous tuer, ils ont préféré cette méthode. Moi, d'autres femmes m'ont dit que c'est pour nous empêcher d'avoir des enfants. J'ai pas eu mes règles pendant 4 mois. Et maintenant, c'est tous les 3 mois. Je me sens seule. En plus, mon fils unique a été tué. Quand je vois les familles ici, je me sens jalouse.
Et Shanija comme Anouara ne sont jamais allés voir un médecin. Personne autour d'elles n'est au courant de leurs histoires.
Mais alors Philippe, est-ce qu'on sait réellement ce qu'il y a dans ces injections?
Impossible de le savoir car ces injections se sont déroulées dans un contexte de sévices généralisés dans une zone coupée du monde. C'était un outil de terreur parmi d'autres. Alors il faut être prudent évidemment, mais ces deux femmes traumatisées pensent qu'il y a un lien direct entre ces injections et leur cycle menstruel. C'est aussi l'avis de Narul Amin, c'est un des chefs du camp de Barmapara.
Je sais que le gouvernement ne veut pas que notre population musulmane grandisse. Ils ont amené plusieurs femmes pour leur faire des injections. Parfois, ils donnent même de l'argent. Il y a eu des milliers de femmes concernées. Ils les ont amenées de force. Si elles n'acceptent pas, ils les frappent et les terrorisent.
Une politique de contrôle des naissances qui existe depuis plusieurs années en Birmanie. Mujamel était élu dans un village rohingya.
Ça existe depuis un moment. Depuis 2012, ils essaient de réduire notre population. Mais de toute façon, on n'avait aucun droit de travailler, d'accéder aux services publics. Ils ont utilisé toutes les techniques pour que notre population n'augmente plus. Et ça passe même par la torture.
Un peu plus loin, un des autres chefs du camp nous explique, lui, qu'à sa connaissance, les femmes qui ont reçu des injections étaient des femmes qui avaient auparavant été violées par les militaires birmans.
Mais alors Philippe, est-ce que ces témoignages sur ces injections, est-ce que ça choque chez les voisins du Bangladesh ou pas du tout ?
Le sujet est tabou, officiellement personne n'est au courant alors que la frontière est juste de l'autre côté de la colline. Mais au Bangladesh, dans un des pays les plus denses et les plus pauvres au monde, le contrôle de la natalité existe. 60 personnes viennent se faire opérer dans cet hôpital rural à côté des camps de Cox's Bazar. Mohamed Moshur Ramar est le responsable du planning familial de la région où se trouvent les camps.
On ne doit forcer personne, ça me choque. Il faut emmener ces femmes rohingyas au planning familial. Il faut s'organiser. Même notre premier ministre croit au planning familial. C'est pas choquant. Ici, au Bangladesh, on essaie d'expliquer, de motiver les jeunes couples. Mes équipes font du porte-à-porte pour expliquer aux jeunes couples de se protéger et que les opérations de stérilisation soient possibles. C'est un enjeu majeur. Dès que les couples ont deux enfants, on leur offre cette possibilité.
Et quand on demande à Moshur Rahman ce qu'il pense de certaines rumeurs d'injections forcées de Rohingyas dans les camps au Bangladesh, il s'énerve avant d'ajouter « Ce sont des rumeurs, on ne s'occupe pas des Rohingyas, ce ne sont pas des habitants du Bangladesh. »
Philippe Rondet avec les Rohingyas sur France Inter toute la journée et dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
3, 2, 1, Twitter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Et le mercredi, le cinéma en VO avec vous, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez vu les fameux Pentagon Papers, donc le nouveau film de Spielberg. Le pitch, on le connaît, les révélations de la presse américaine en 71 sur les dossiers secrets de la guerre du Vietnam. Un épisode qui est beaucoup moins connu que l'épisode du Watergate, d'ailleurs, sorti par le même Washington Post, à l'époque dirigé par une femme. Elle s'appelle Katharine Graham. Le pouvoir en place a été tenté de l'intimider. C'est une histoire taillée sur mesure pour le cinéma. Comme on dit, bande-annonce et on se parle après.
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon.
The most highly classified documents of the war.
The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
The way they lied.
Alors si on se résume, un lanceur d'alerte, une femme culottée, un gros scandale politique, on est d'accord, on parle bien de l'Amérique de Nixon, pas de celle de Donald Trump en ce moment.
Voilà, c'est vrai que du point de vue de la liberté de la presse, hein, ça peut prêter à confusion. D'un côté, Richard Nixon dans le film, que l'on voit de dos, de loin, en train de hurler dans un téléphone que plus jamais il ne tolérera un journaliste du Washington Post à la Maison Blanche. De l'autre, l'administration Trump, qui ne cesse d'accuser les journalistes de diffuser des informations alternatives ou bidons, les fameuses fake news.
Et le Washington Post, donc, n'a pas beaucoup changé, puisqu'il était en première ligne de ces attaques.
Et qui continue de sortir des infos. C'est le Post qui a révélé, il y a un peu moins de deux semaines, la petite sortie sympathique de Donald Trump sur les fameux pays de merde, ou cette vente d'avions à F-52 à la Norvège, qui n'existait que dans les jeux vidéo de Call of Duty.
Et puis alors donc, le Post, à l'origine des révélations du Watergate, scandale tellement énorme qu'on a du mal à se souvenir. Pour être honnête, tout avait commencé avec ces fameux Pentagon Papers.
Et le film de Spielberg est un peu le préquel, en quelque sorte, des hommes du président avec Robert Redford et Dustin Hoffman sur cette affaire du Watergate. C'est un peu l'histoire du premier lanceur d'alerte, Daniel Ellsberg, ancien fonctionnaire américain, écœuré de découvrir que la guerre du Vietnam était ingagnable et que les gouvernements successifs de Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon le savaient, qu'ils ont menti au peuple américain sur le sujet. C'est pas une petite affaire, c'est lui qui a sorti les documents un par un, qui les a communiqués à la presse, au New York Times d'abord, puis au Washington Post, quand l'administration Nixon a obtenu obtenu une injonction du tribunal fédéral pour empêcher la publication de ces infos.
Au New York Times d'abord, comme vous dites, puisqu'ils sont furieux d'ailleurs en ce moment au New York Times. Alors un rapport voluminé quand même, ça fait 7000 pages, 47 volumes, que les journalistes du New York Times d'abord donc, et puis du Washington Post épluchent pendant des semaines, et ça on le voit dans le film.
Voilà, un travail d'enquête qui est vraiment remarquable et surtout très bien filmé, dans une ambiance de néon, de bureaux enfumés, l'adrénaline du scoop, le sentiment surtout de travailler à la marge de l'histoire en publiant la vérité, avec dans le rôle du rédacteur en chef de l'époque, Ben Bradley, le comédien Tom Hanks, qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche quand il s'agit de défendre la liberté de la presse aujourd'hui.
Quand j'étais enfant, jamais je n'avais imaginé que les présidents Eisenhower, Kennedy et Johnson étaient capables de mentir délibérément au peuple américain en les regardant dans les yeux. Ces documents constituent véritablement l'acte fondateur du journalisme d'investigation américain. La vérité et les faits, rien que les faits. Le film retrace une semaine dans l'histoire du Washington Post. Mais quelle semaine ! Celle où Katharine Graham est devenue la femme qu'elle est. Et surtout, celle où le Washington Post est devenu incontournable. Le premier amendement de notre Constitution énonce les quatre piliers fondateurs de notre démocratie. Le droit à la liberté de culte, le droit de rassemblement, le droit à la liberté d'expression et le droit de la liberté de la presse. Je crois que par les temps qui courent, on cherche à nous priver d'au moins l'un de ces droits fondamentaux en semant le trouble et le chaos à la moindre occasion.
Et alors, Corinne, ce qui est amusant et ce qu'il faut souligner, c'est qu'au début, dans l'idée de Spielberg, il fallait surtout faire un film sur une belle histoire d'émancipation féminine. C'est toujours le cas, mais c'est un petit peu viré aussi.
Exactement, le résultat de l'élection présidentielle a un petit peu modifié ses plans. Lui avait tablé plutôt sur l'élection d'Hillary Clinton, et dans son esprit, eh bien, ce portrait de femme dans un univers d'hommes avait évidemment beaucoup de sens, Steven Spielberg.
On pensait tous, pendant l'écriture du script, qu'Hillary Clinton gagnerait les élections. C'est pour cette raison que le film devait avant tout dresser le portrait d'une femme isolée dans un univers d'hommes, prête à casser le moule qu'on avait imaginé pour elle, et décider seule de ce qu'elle avait à faire, se libérer de ce poids. Voilà ce qu'a été le parcours de Katharine Graham. Et l'impact est colossal. Elle a vraiment ouvert la voie à toutes les autres femmes. Il n'y a que l'histoire qui puisse fournir de tels personnages. Le film montre bien sûr le quotidien des femmes en 1971 et le chemin parcouru depuis. Mais la situation actuelle me fait dire que nous sommes à nouveau à un moment crucial de l'histoire des femmes dans notre pays et partout dans le monde d'ailleurs.
Catherine Graham incarne à l'écran par Meryl Streep en lice pour l'Oscar de la meilleure comédienne. Tom Hanks, lui, hélas, n'a pas été retenu.
Voilà, hélas, comme vous dites, ça vous déçoit un petit peu, on le sent dans votre voix, Corinne Pellissier, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Sintès sur France Inter.
Tiens, puisqu'on parlait de femmes de tête, de femmes de pouvoir, de femmes d'influence, on va rester dans le tempo avec vous, Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers. C'est à Davos que vous avez choisi d'aller. Et ça commence par une bonne nouvelle, Jean-Marc, puisque Davos, ça marche avec des ateliers qui sont animés par des coprésidents. Or, cette année, les coprésidents sont des coprésidentes, donc c'est bien, non ?
Oui, ça y est, les femmes ont pris le pouvoir au premier coup d'œil. Quand on regarde cette affiche, on est tenté de le penser. C'est 7 femmes au poste de pilotage du club super select de Davos avec ses 1500 chefs d'entreprise et ses 70 chefs d'État et de gouvernement. Ça, pour du symbole, hein, c'est du symbole. Avec en plus, dans le choix de ces 7 personnes, de belles histoires, comme on dit. On va prendre un exemple, l'Indienne Chetna Sinha. Mm-hmm. Alors elle a 58 ans, elle habite pas loin de Mumbai, de Bombay, dans le cœur de l'Inde. Et depuis plus de 20 ans, elle dirige une banque qui fait du microcrédit auprès des femmes. Et comme ça, en 20 ans, elle a aidé près de 300 000 femmes à monter leur petite entreprise. L'une, une station de radio, l'autre, elle construit un barrage, etc. Et hier soir, à son arrivée, on la voyait posée dans son sari rose aux côtés des 6 autres coprésidentes, dont les Françaises Christine Lagarde, mm-hmm. patronne du FMI, et Isabelle Cochère, directrice générale d'Engie. Et là, vous me dites, là, je vois, oui, Christine Lagarde, je vois, Isabelle Cochère, je vois.
Un mais peu alors, moins, mais je vois quand même un
peu. Chetna Sinha, là, jamais entendu parler. Eh bien, voilà un constat qui devrait à lui seul nous mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à citer des femmes chefs d'entreprise dans le monde, à l'exception de quelques célébrités.
Mais enfin, quand même, Jean-Marc, si on regarde les chiffres, je me fais l'avocat du diable, ça s'arrange quand même un peu.
Eh bien, non, ma chère Fabienne, ou bien disons que ça s'arrange à la vitesse d'un escargot qui aurait pris des calmants, vous voyez le genre.
Oui.
Je vais pas vous noyer sous les chiffres, mais tout de même. Oh, prenons les États-Unis. 6% de femmes, 6% parmi les chefs d'entreprise des 500 plus grosses boîtes. France, devinette, Fabienne, c'est le jeu des 1000 euros, attention. Oui. Combien de femmes patrons du CAC 40
Alors, je le vois marqué.
C'est donc facile. Une, oui, Isabelle Cochère, dont on vient de parler, qui, soit dit en passant, semble partie pour ne jamais être nommée présidente, mais rester uniquement directrice générale de son entreprise. Alors, au niveau des PME, ça s'améliore. On tourne désormais autour de 20% de femmes en Europe occidentale. Mais si on regarde le bulletin de salaire, alors là, c'est la cata. L'écart de salaire entre hommes et femmes à activité comparable s'est creusé l'an dernier dans le monde, résultat d'une enquête dans 144 pays, du World Economic Forum, c'est-à-dire justement Davos. Et savez-vous quel est le plus gros écueil rencontré par une femme chef d'entreprise ? Obtenir un prêt de la banque. Elle a statistiquement deux fois moins de chances de l'obtenir qu'un homme pour une activité comparable. D'où l'utilité, par exemple, de cette femme indienne.
J'allais dont dire,
je vous parlais,
elle a demandé un microcrédit à la dame et comme ça, la boucle est bouclée.
En tout cas, le plus flagrant, c'est le plafond de verre. Quand on arrive dans les très grosses entreprises, alors là, c'est men only, comme on dit en anglais, réservé aux messieurs.
Alors, justement, tiens, vous avez entendu parler peut-être de cette histoire d'ailleurs où dans un club anglais, il n'y avait que des messieurs. C'est tout récent, ça date d'hier. Comme quoi.
Ça a fait polémique.
Voilà, comme quoi on avance à tout petit pas. Alors, quand même, Jean-Marc, il y a un domaine où on a l'impression que ça bouge, c'est celui de la politique. Même en France, finalement, un peu mieux quand même que ça a été autrefois.
Oui, mais je vais vous décevoir là aussi, pas vraiment. Là encore, miroir aux alouettes, sur le plan mondial en tout cas, ça s'est plutôt dégradé ces derniers mois. Il y a encore deux ans, on comptait près de 30 femmes chefs d'État ou de gouvernement dans le monde. Pas terrible, mais bon. Sauf qu'à ce jour, on est descendu à une vingtaine, avec le départ d'Hélène Johnson-Sirleaf au Liberia, de Michelle Bachelet au Chili, de Dilma Rousseff au Brésil, etc. Il y en a quelques autres en Argentine, en Malte, en Pologne, etc. C'est mieux en Europe du Nord, Royaume-Uni, Norvège, Pays-Baltes, Allemagne, bien sûr, ou en Asie du Sud. Bangladesh, un Népal sont des pays à forte présence politique féminine. Et si on élargit à tous les parlements nationaux de la planète, vous savez, autre devinette, quel est le pays le plus féminisé au monde ? C'est le Rwanda,
et ben voilà,
au
comme
cœur
quoi.
De l'Afrique, dans la région des Grands Lacs. 60% de femmes parmi les députés.
Ça s'explique ou pas, d'ailleurs ?
En partie lié au génocide, mais ça mériterait une chronique en soi. On fera ça une autre fois.
Allez.
L'Europe du Sud en retard, et on met la France dans le lot. Une seule expérience de femme chef d'État ou de gouvernement en 25 ans. C'était Ailly à 25 ans, Edith Cresson, 11 mois. Tiens, d'ailleurs, voilà une autre particularité. Les femmes au pouvoir, elles y restent moins longtemps que les hommes. Tiens donc, leurs mandats sont courts, voire intérimaires. Et quand elles sont ministres, elles sont le plus souvent chargées de la famille ou des affaires sociales. Mmh. Tiens donc. Donc on se résume, hein. La fiche de Davos, elle sonne bien. Mais il faudrait pas qu'elle nous laisse penser que le problème est réglé. Sauf ici, évidemment, à France Inter, où les femmes tiennent la baraque.
Je ne vous le fais pas dire, Jean-Marc. Et pour votre punition, vous reviendrez demain dans Un jour dans le monde. Allez, merci beaucoup. Le monde à l'envers. Signé Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde. Le 18-20 continue, bien sûr, avec Sébastien Paour pour le journal. Et puis le téléphone sonne dans un instant. On va parler de réforme du bac ce soir. On parle de grand oral, on parle des choix de disciplines majeures, on parle de la fin du rattrapage, le bac en train de faire peau neuve. Alors à vous de nous le dire, à vous de nous dire si vous pensez que c'est bien ou pas. Vous êtes prof, vous êtes parent, allez-y. Si vous êtes lycéen, c'est bien aussi parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même vous que ça concerne et vous allez le passer, ce fameux bac, que vous le vouliez ou non.